Aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30 en temps universel du vendredi 28 juin 2019. Raïssa Girondin, votre compagnie. Voici les titres. Plus de 250 arrestations en Éthiopie en lien avec la tentative de coup d'État régional. En République démocratique du Congo, le bilan s'alourdit après l'effondrement d'une mine de cuivre et de cobalt à Kolwezi dans le sud-est du pays. Au Cameroun, John Frundi, leader du parti d'opposition SDF, a été enlevé à Bamenda, en zone anglophone. Comment faire face aux violences sexuelles contre les femmes en zone de conflit? C'est le thème de la conférence qui se tient à Abuja dans nos dossiers du jour avec le docteur Denis Mukwege.
Boko Haram, ils utilisent cette stratégie des viols comme arme de guerre et c'est terrible.
Le sommet du G20 s'est officiellement ouvert à Osaka, au Japon, sur fond de divergences entre les dirigeants du monde, notamment sur le commerce et le climat. Vous retrouverez également la Minute Éco et la page sport, mais tout d'abord, le journal. En Éthiopie, plus de 250 personnes ont été arrêtées en lien avec les assassinats politiques de samedi passé, qualifiés par les autorités de tentative de coup d'État contre le gouvernement de la région Amara dans le nord-ouest. C'est ce qu'a annoncé jeudi soir une équipe gouvernementale chargée de faire la lumière sur ces événements. Ekiabadou.
La task force a arrêté 212 suspects en région Amara et 43 suspects à Addis Abeba, a affirmé dans un communiqué l'équipe gouvernementale en précisant que 27 armes automatiques et 2 mitrailleuses ont été également saisies. Selon cette équipe formée de spécialistes de la sécurité et de justice, les meurtres des responsables gouvernementaux et des généraux de l'armée s'inscrivent dans une conspiration plus grande visant un large éventail de responsables gouvernementaux. L'Éthiopie est sous haute tension depuis les assassinats de samedi qui s'inscrivent dans le contexte de lutte de pouvoir liées aux tensions politico-ethniques dont le pays est le théâtre. Ces dernières s'expriment plus librement avec l'ouverture de l'espace démocratique par le Premier ministre Abiy Ahmed, entré en fonction en avril 2018. Pour rappel, samedi après-midi, un commando armé a tué le président de la région Amara et un de ses conseillers et procureur général de l'Amara à Bahir Dar, la capitale régionale. Puis quelques heures plus tard, c'était au tour du chef d'état-major des armées éthiopiennes d'être tué à Addis Abeba par son garde du corps alors qu'il organisait la réponse à l'attaque de Bahir Dar. Un général à la retraite lui rendant visite a également été tué.
Au Cameroun, enlèvement cet après-midi de l'opposant anglophone John Frundi, selon les sources proches de son parti. Le président du Social Democratic Front a été kidnappé à son domicile à Bamenda, en zone anglophone. Les précisions à Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Juntap.
Le président du SDF a été enlevé ce vendredi aux environs de 15h30 temps universel, a confié à VOA Afrique. Emmanuel Tonga, responsable régional du Social Democratic Front du Centre. L'un des gardes du corps de John Frundi a été grièvement blessé au cours de cet enlèvement, a ajouté M. Tonga. Le communiqué rendu public par Jean-Robert Wafo, ministre en charge de l'information et des médias du Shadow Cabinet du SDF, affirme que, citation, des ravisseurs non identifiés sont entrés dans la résidence d'un Tarikon de John Frundi, ont tiré à bout portant sur son garde du corps. John Frundi, qui se trouvait dans la maison, est sorti pour s'enquérir de la situation. C'est alors qu'il a été enlevé pour une destination inconnue. Fin de citation. Le 27 avril dernier, M. Frundi avait été enlevé par des inconnus à Kumbo, dans la région du Nord-Ouest, en zone anglophone. Le SDF a été, depuis le retour de la démocratie en 1990, le principal parti de l'opposition. John Frundi a revendiqué en 1992 la victoire à l'élection présidentielle. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Par ailleurs, la Suisse annonce qu'elle joue le rôle de facilitateur dans la crise dans les régions du Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun. Dans un communiqué, la Suisse dit être à la recherche d'une solution pacifique et durable à la crise au Cameroun. Le gouvernement fédéral suisse précise qu'une réunion préparatoire avec des opposants, la deuxième du genre, a lieu cette semaine. Et la Suisse a par ailleurs annoncé avoir convoqué l'ambassadeur camerounais après l'agression cette semaine à Genève d'un journaliste de la radio suisse. Suisse publique RTS par des hommes qui appartiendraient à l'entourage du président camerounais Paul Biya. Le journaliste couvrait un rassemblement d'opposants au régime du président Paul Biya. Une nouvelle manifestation d'opposants est prévue samedi devant le siège de l'ONU à Genève. En République démocratique du Congo, le bilan de l'éboulement survenu jeudi dans une mine de cuivre exploitée par l'entreprise Kamoto Copper Company à Kolwezi s'est alourdi, se chiffrant maintenant à 43 morts. C'est le gouverneur de la province de Lualaba, Richard Mouyège, qui l'a annoncé ce vendredi. Toujours en République démocratique du Congo, une marche pacifique prévue dimanche à l'appel des poids lourds de l'opposition Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Martin Fayoulou a été interdite ce vendredi par les autorités locales dans la capitale Kinshasa. Le nouveau gouverneur Gentilin Gobila a indiqué qu'il était au regret de ne pouvoir prendre acte de cette demande de manifestation à la date commémorative du 30 juin, le jour du 59e anniversaire de l'indépendance du Congo. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté aujourd'hui une résolution étendant la mission de ses casques bleus au Mali, au centre du pays, où les violences redoublent. Bagassi Koura.
En dépit d'une mise en cause de l'intérêt de la mission MINUSMA il y a quelques mois par les États-Unis, ses effectifs restent inchangés dans la résolution adoptée à l'unanimité qui prolonge jusqu'au 30 juin 2020 la présence des Nations Unies au Mali, soit 13 289 militaires et 1920 policiers. Dans les faits, la MINUSMA, dont la mission à l'origine était focalisée sur le nord du Mali, a déjà renforcé récemment sa présence dans le centre du pays avec la création d'un secteur centre. Dans cette partie du pays, les violences ont culminé avec le massacre le 23 mars attribué à des chasseurs Dogons de quelques 160 peuls dans le village d'Ogosagou, près de la frontière avec le Burkina Faso. Depuis lors, les tueries ont continué avec la mort de 35 Dogons à Sobaneda, le 9 juin, ou encore de 41 Dogons à Gangafani et Yorolt le 17 juin. Selon des diplomates, à l'initiative des États-Unis et de la France, de nouvelles sanctions pourraient être prises prochainement contre 5 individus accusés de terrorisme ou de contrevenir au processus de paix. En particulier, le prédicateur Amadou Koufa, à la tête d'un groupe djihadiste apparu en 2015 dans le centre du Mali, pourrait figurer dans les nouveaux noms visés par des gels d'avoir et des interdictions de voyager, selon un diplomate.
En Tunisie, la présidence a assuré aujourd'hui qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir au lendemain du grave malaise du chef de l'État, Béji Saïd Essebsi. Son état de santé s'améliore, a déclaré la porte-parole de la présidence, Saïda Garache. Il avait été hospitalisé dans un état critique, selon la présidence, le jour même où la capitale Tunis était le théâtre d'un double attentat suicide revendiqué par l'organisation État islamique ayant fait un mort et 8 blessés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le sommet du G20 d'Osaka s'est ouvert vendredi dans une relative harmonie avec un Donald Trump inhabituellement consensuel, si ce n'est une blague très remarquée par la Russie, mais sans réel progrès sur les dossiers les plus conflictuels, dont le climat. Les précisions de John Lyndon.
Le premier ministre nippon Shinzo Abe a voulu placer les débats dans la grande ville côtière japonaise sous le signe d'une belle harmonie. Donald Trump a semblé jouer le jeu, multipliant les amabilités. Il a pêle-mêle vanté les magnifiques usines construites par les fabricants automobiles japonais aux États-Unis, dit vouloir bien s'entendre avec l'Inde et évoquer une fantastique Angela Merkel. Autant de pays avec lesquels les États-Unis ont des contentieux commerciaux. Les Américains et les Japonais ont d'ailleurs décidé d'accélérer leurs discussions commerciales sur l'agriculture et l'automobile notamment. Sur l'Iran, l'un des grands sujets des crispations du moment, Donald Trump s'est aussi voulu apaisant. « Rien ne presse, nous avons le temps de résoudre les tensions », a-t-il dit, lui qui parlait encore il y a peu de guerre commerciale. Mais le président américain n'a pu s'empêcher d'attirer l'attention au travers d'une blague sur les élections américaines et la Russie, sujet ultra sensible aux États-Unis lors d'un entretien bilatéral avec Vladimir Poutine. Pas d'ingérence dans les élections, président, pas d'ingérence, a-t-il lancé, ironique, en se tournant vers son homologue russe. Sur le sujet le plus brûlant de ce G20, à savoir l'escalade commerciale et technologique entre la Chine et les États-Unis, escalade qui met en péril la croissance mondiale, Donald Trump dit s'attendre à une rencontre productive samedi avec son homologue chinois Xi Jinping.
Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. maintenant le sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir Aïssa et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le journal de la CAN. C'est la journée des chocs. Le deuxième de la soirée oppose présentement la Côte d'Ivoire au Maroc, tous deux vainqueurs lors de leur premier match. Le score est de 1-0 pour les Lions de l'Atlas, but inscrit à la 24e minute par Youssef El Nesri. Bien avant ce match en cours, on a eu droit au match au sommet du groupe E. Les aigles maliens et les aigles tunisiens se sont neutralisés 1-1, déjà accrochés par l'Angola sur le même score pour son entrée. La Tunisie a encore peiné face aux Maliens et peut dire merci à Wabi Kazri, auteur de l'égalisation, une sortie ratée du gardien Mouez Hassan sur un corner tiré par Diadi Samasekou avait donné l'avantage aux Maliens. Les Tunisiens entretiennent l'espoir d'une qualification en huitième avant leur dernier match contre la Mauritanie. Le Mali, lui, reste leader du groupe E avec 4 points. Tout à l'heure, à 20h temps universel, les Bafana Bafana sud-africains feront face à la Namibie. Hier, les Fenech sont sortis du bois. L'Algérie a remporté son duel face au Sénégal de Sadio Mané, vaincu 1-0. Devant la meilleure nation africaine au classement FIFA, les Algériens ont montré un collectif discipliné et une efficacité offensive. Avec ses 3 points, l'Algérie prend la tête de la poule C, mais préfère tempérer.
C'était un match pas facile, mais voilà, on savait. Ils nous ont jamais battu, le Sénégal, mais on sait que c'était une très très bonne équipe. C'est le favori de la Coupe d'Afrique. Voilà. Après, ça reste qu'un match. On a fait la différence en deuxième mi-temps. Je pense qu'on a été très bon en deuxième mi-temps. Mais voilà, comme c'est dit, il ne faut pas s'enflammer. C'est rien. C'est qu'une victoire. Inch'Allah, on va continuer à bien travailler.
Riyad Mahrez, ailier algérien. Pour le Sénégal, 3 points. La qualification est loin d'être compromise, mais aucun répit ne sera accordé aux Lions. Pour leur dernier match face au Kenya, vainqueur de la Tanzanie 3-2, la star des Lions de la Teranga en est consciente, Sadio Mané.
C'est une défaite qu'on ne s'attendait pas, même si dans le football il faut s'attendre à tout. Maintenant on a un match décisif, maintenant on va essayer d'aller bien préparer, surtout à tout faire pour gagner. Il faut aller les chercher surtout et puis essayer d'être serein et surtout de rester compact et aussi mettre les occasions au fond.
Toujours hier, Madagascar a décroché sa première victoire à une phase finale de CAN en venant à bout du Burundi battu 1-0. Les barrières malgaches totalisent désormais 4 points dans le groupe B et sont plus que jamais proches de la qualification pour les huitièmes de finale. Mais il ne faut pas s'emballer, comme le dit le coach français des barrières, Nicolas Dupuis.
D'être ici est tout neuf finalement et pour la première fois parce que on est petit poussé, donc on a tout à gagner. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt une réussite pour nous, même si rien n'est terminé et rien n'est figé, parce qu'on n'est toujours pas qualifié à l'heure qu'il est. Je crois que le fait d'être petit poussé nous permet d'être un peu la surprise. Et les gens se méfient pas trop de nous.
En face, c'est la deuxième défaite pour les hirondelles burundaises qui disent continuer leur apprentissage.
On a fait un bon match, mais à un certain moment, j'ai senti que mon équipe était complètement fatiguée. Je ne sais pas si c'est le match qu'il a joué contre le Nigeria, mais c'est une bonne expérience aussi pour nous parce que c'est la première participation. C'est une bonne expérience pour les joueurs. Et la charrette, même pour moi, ça a diminué même le rythme du jeu. Mais sinon, on devait jouer comme on l'a prévu. Il faut aussi revoir et ce climat parce que ça affaiblit le rythme expiré pour les deux équipes.
Olivier Niyongeko, sélectionneur du Burundi. Toujours dans l'actualité de la CAN, le joueur égyptien Amr Warda, exclu de son équipe, sera réintégré sous la pression de ses coéquipiers après la phase de groupe. D'après la Fédération égyptienne de football, le milieu de terrain avait été exclu de la sélection mercredi après avoir été accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel sur Internet. Le président de la Fédération égyptienne de football, Hani Abou Rida, a décidé de réduire la suspension du joueur en appliquant jusqu'à la fin du premier tour. La réintégration d'Amr Warda a suscité une polémique sur les réseaux sociaux au pays des pharaons. De nombreux internautes, dont des femmes, ont exprimé leur indignation. Le hashtag en arabe, je cite, « l'équipe des harceleurs » était le plus partagé en Égypte ce vendredi, selon Twitter. Voilà donc pour le Journal des Sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il Il est l'heure maintenant de vous proposer nos sujets magazine. Raissa Girondin, toujours avec vous dans Le Monde aujourd'hui. Comment faire face à la lutte contre les violences sexuelles contre les femmes en zone de conflit? C'est autour de la question que se tient à Abuja une concertation internationale en présence de Dr Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix en 2018. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Le Nigeria est l'un des pays touchés par un conflit qui s'est traduit par toute forme de violence, notamment les violences sexuelles contre les femmes et les filles. Les 10 dernières années d'insurrection dans le nord-est du pays ont été marquées par une croissance des mariages forcés, du nombre de viols, l'esclavage sexuel, l'enlèvement, les attentats suicides, la conversion forcée et d'autres formes de préjudice physique et psychologique infligés aux femmes et aux filles. Le gynécologue congolais Dr Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix de 2018, participe au débat.
Je suis ici à Abuja, c'est pour partager notre expérience en ce qui concerne la lutte contre les violences sexuelles dans le conflit armé. Effectivement, avec les Boko Haram, ils utilisent cette stratégie des viols comme arme de guerre, l'esclavage sexuel, et c'est terrible.
L'enlèvement de plus de 200 lycéennes à Chibok, dans l'état de Borno, dans le nord du Nigeria, le 15 avril 2014, avait suscité de vives réactions et a attiré l'attention de la communauté internationale sur les crimes commis par le groupe Boko Haram. Témoignage d'une survivante, Fatima Mukhtar, qui s'exprime à l'aide d'une interprète. Elle a passé 15 mois dans la captivité avec Boko Haram.
On Sunday morning, I decided to escort my sister to the farm.
Un dimanche matin, j'ai décidé d'accompagner ma sœur au champ, mais en cours de route, Boko Haram a pris le contrôle de notre village. Nous avions essayé de nous échapper, mais j'ai été enlevée par Boko Haram et ils m'ont obligée à épouser l'un de leurs membres. J'ai passé 15 mois en captivité.
Amnesty International est l'une des organisations ayant enquêté sur les crimes sexuels dans le nord-est du Nigeria. Awal Moussa Rafsanjani est président du conseil d'administration d'Amnesty International Nigeria.
C'est terrible avec la situation que nous connaissons dans le nord. Parfois, ces atrocités sont commises par les criminels, les insurgés eux-mêmes. Et parfois, elles sont commises par les forces de sécurité. Il y a beaucoup d'accusations. Il y a eu beaucoup d'accusations contre les agents de sécurité sur leur implication dans des scandales sexuels.
Les ONG et les gouvernements se sont jusqu'ici concentrés sur la déradicalisation, la contre-insurrection, la réintégration et la reconstruction. Toutefois, la protection et les réparations accordées aux victimes de violences sexuelles sont actuellement minimales, estiment des participants à la rencontre. C'est le cas de Deborah Okazuma.
Une décision doit être prise. Il y a eu des lois qui ont été votées. Ces lois doivent devenir effectives. Elles ne doivent pas servir seulement de documents rédigés et après, c'est tout. Quand ces agresseurs se rendent compte que ces lois seront appliquées, je pense que quelque chose pourrait commencer à se réaliser.
Tout le monde est d'accord ici qu'il est impératif d'améliorer la prise de conscience des besoins des victimes et de renforcer la volonté politique de les soutenir. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde. Allons au Togo, à la découverte d'un chocolat bio produit de façon semi-artisanale. Choco Togo, le chocolat made in Togo, un produit que le pays affiche fièrement. Il est produit par une coopération qui met au centre de sa vision le cacao culteur. Un reportage de notre correspondante à Lomé, Kaye Lawson.
Nous sommes dans une unité de production de chocolat à Lomé. Et oui, depuis 2014, le Togo produit du chocolat et non des moindres. Choco Togo, le chocolat made in Togo dont les caractéristiques en font un chocolat particulier. Eric Agboku, directeur de Choco Togo.
Choco Togo, un chocolat bio, un chocolat naturel, un chocolat vraiment qui se différencie des autres chocolats parce que nous ne faisons que du chocolat noir. Nous ne pouvons pas faire un chocolat en bas de 50% de teneur de cacao parce que les gens veulent manger du chocolat et non du sucre. C'est un chocolat qui résiste à la température ambiante. Aujourd'hui, nous sommes à 30 degrés et au-delà. Nous n'avons pas besoin de réfrigérateur pour pouvoir conserver notre chocolat.
Choco Togo dispose de deux sites. Le premier se trouve à Kpalime, à 110 km au nord-ouest de Lomé, où se fait le décorticage des fèves avant que la pâte de cacao n'arrive sur le site de la production du chocolat proprement dit qui est à Lomé. Ewenam Degle, assistante de production à Choco Togo.
Une fois la pâte de cacao à Lomé, on prépare ça dans la machine avec du sucre pour avoir le chocolat plus raffiné. Et au niveau de la production, nous avons premièrement le tempérage qui permet au chocolat d'être plus éclatant et plus dur à casser. Donc après le tempérage, on a le pesage et le moulage et la réfrigération. Après ça, on a le démoulage. Et là, on commence déjà les emballages. On a l'emballage primaire, l'emballage secondaire, l'étiquetage et puis le raffia.
Choco Togo fait partie des produits made in Togo que le pays affiche fièrement lors des foires et forats économiques. Le français Yann Lovert a découvert Choco Togo lors d'un forum à Lomé et en a été conquis.
Des beaux produits, on a pu avoir l'occasion de goûter à ce chocolat qui est très bon. Donc, bravo à l'initiative. J'ai compris que c'était fait par des femmes, donc c'est encore mieux. Et les pays européens recherchent maintenant des produits qui ne sont pas forcément trop transformés. Et à partir du moment où ça reste naturel, je pense que c'est positif.
Choco Togo se réclame aussi d'une entreprise sociale comme le soutient son directeur Eric Agboku.
Notre vision, c'est que le cacao n'est pas plus important que le cacao culteur. L'homme est au centre de nos démarches. Et sur toute la chaîne des valeurs, le cacao culteur doit jouir de ses efforts. Ça veut dire que le cacao doit être vendu à un prix particulier, permettant au cacao culteur aussi de jouir de la vie. C'est pourquoi, à notre niveau, nous ne payons pas le cacao au prix du marché. Nous payons toujours au double du prix du marché. Donc si le cacao aujourd'hui est à 1000 francs, nous le prenons à 2000 francs.
Pour produire ces chocolats, Choco Togo utilise une variété rare du cacao appelée amelonado. Du décorticage jusqu'à l'emballage en passant par la production, toute la chaîne est assurée par une cinquantaine de femmes. Kailson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Ici, aux États-Unis, la deuxième partie du débat des candidats démocrates s'est tenue hier après le passage d'un premier groupe mercredi. Les deux favoris des sondages, l'ancien vice-président Joe Biden et le sénateur Bernie Sanders, étaient très attendus. Mais à l'arrivée, c'est Kamala Harris qui semble avoir marqué le plus de points dans un débat où les candidats ne se sont pas fait de cadeaux. Un reportage de Jim Malone, le récit d'Abdourahman Dia.
Le ton plutôt mesuré de mercredi a laissé la place à un débat parfois houleux durant ce deuxième débat regroupant 10 autres candidats démocrates. L'ancien vice-président était très attendu. Sa cible en venant au débat était Donald Trump.
Je suis candidat parce que je pense qu'il est important de restaurer l'âme de cette nation. Ce président l'a déchiré.
Mais par moments, Joe Biden était sur la défensive. Et c'est Kamala Harris, la sénatrice de Californie, qui a acculé l'ancien vice-président, devenant ainsi la star du débat.
Ça fait mal de vous entendre parler de la réputation de deux sénateurs qui se sont fait une réputation et une carrière sur la ségrégation raciale dans ce pays.
Biden, également attaqué par d'autres sur sa longévité en politique, était juste à côté de Bernie Sanders, deuxième dans les sondages.
Rien ne va changer à moins que nous ayons le courage d'affronter Wall Street, le monde des assurances, l'industrie pharmaceutique, l'industrie de l'armement et celle des combustibles fossiles.
Comme lors du premier débat, l'immigration était un des sujets phares. Et le jeune candidat Pete Buttigieg, qui monte dans les sondages, a confirmé qu'il était un redoutable adversaire avec qui il fallait compter.
Nous devons tous dénoncer l'hypocrisie. Pour un parti qui s'associe au christianisme,
de suggérer que Dieu aurait souri en voyant la séparation des familles par des agents fédéraux, que Dieu aurait fermé les yeux lorsqu'on mettait les enfants dans des cages, ce parti ne peut plus utiliser la religion.
En attendant le prochain débat prévu fin juillet, les candidats devront redescendre sur le terrain et se préparer pour de nouvelles joutes.
Les mariages coûtent-ils trop cher? C'est la question posée ce soir dans À votre avis. Tenue princière, réception généreuse, décoration, photographe, musicien. Pour un beau mariage, il faut souvent payer des fortunes et bon nombre d'entre nous s'endettent. Des dépenses qui découragent les plus petites bourses et empêchent certains jeunes à officialiser leur union. Pourquoi dépense-t-on autant pour les mariages? Le sacrifice financier en vaut-il la peine? Les petites réceptions sont-elles acceptables dans votre communauté? Morgane Guiriec, en votre compagnie, réagissez en direct à 18h temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Nous vous rappellerons.
L'Iran, les Européens, la Chine et la Russie se sont réunis ce vendredi à Vienne pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien. La Chine a indiqué qu'elle allait continuer à importer du pétrole iranien, tandis que les Européens ont annoncé avoir mis un système opérationnel visant à aider l'Iran à contourner les sanctions américaines. Pour analyse, Abdourahmane Dia joint l'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Herman Cohen.
Ce que les Européens peuvent faire, c'est d'aider l'Iran à détourner les sanctions américaines. Les Américains ont dit qu'ils ne peuvent pas utiliser le dollar et ils demandent aux autres pays de ne pas acheter le pétrole. Donc c'est possible peut-être que la Chine et la Russie peuvent acheter du pétrole ou organiser la vente pour détourner les sanctions.
Justement, le représentant de la Chine à cette réunion a indiqué que son pays allait continuer à importer du pétrole iranien. Est-ce qu'il n'y a pas des craintes d'un bras de fer entre Washington et Pékin, alors déjà que la guerre commerciale fait rage entre les deux pays?
Oui, ça ne peut pas ajouter des problèmes entre l'Amérique et la Chine. Il y a déjà assez de problèmes, donc ça ne peut rien changer s'ils augmentent leurs achats de pétrole. Mais ce qui compte, c'est qu'ils peuvent organiser les importations que l'Iran cherche, parce qu'ils peuvent pas. C'est difficile pour eux d'utiliser le dollar à cause des sanctions.
Et ils peuvent utiliser, disons, la monnaie chinoise, par exemple.
La monnaie chinoise qui est monnaie forte, bien sûr.
L'Iran menace d'enrichir l'uranium à un rythme plus élevé que celui qui était prévu par les accords sur le nucléaire. Quels sont les risques?
Oui, mais écoutez, l'Amérique a quitté l'accord. Et maintenant, l'Amérique critique l'Iran pour leur tentative de quitter l'accord. Donc c'est un peu ironique, c'est contradictoire. Si l'Amérique veut que l'Iran reste dans l'accord, il faut que l'Amérique reste dans l'accord aussi.
Donc il faut que Washington revienne.
Il faut que Washington revienne. La décision de quitter l'accord n'était pas très sage.
Mais ce n'est pas non plus dans l'intérêt des Européens de voir l'Iran augmenter son taux d'enrichissement de l'uranium.
Bien sûr, les Européens et les Chinois et la Russie sont d'accord. Il ne faut pas augmenter le taux d'enrichissement. Mais il faut faire quelque chose pour aider l'Iran à détourner les sanctions américaines parce qu'ils sont en grande difficulté économique. À mon avis, l'Amérique doit faire un accord avec l'Iran, tous les deux rester dans l'accord, et après, comment ils peuvent trouver un accord sur les missiles, par exemple, et sur l'aide que l'Iran donne à Hezbollah. Mais la situation maintenant, il n'y a pas de dialogue. C'est un peu ridicule.
C'était Herman Cohen, joint ici à Washington. Et point final à cette édition du Monde Aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Haydan Utku était à la technique. C'était Raissa Gironda à la présentation. Merci encore de nous avoir suivis. On reste connectés sur Facebook et rendez-vous sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Afrique. Les